Popcorn et Banjo, la seule émission de cinéma qui diffuse
exclusivement de la musique country
avec Charles Lemoine
et Thomas Révoy.
Salut à tous, c'est Popcorn et Banjo, la seule émission de cinéma qui diffuse exclusivement de la musique country. Popcorn et Banjo s'inscrit dans le créneau Vive le cinéma de Aligre FM 93.1. À ma gauche, Charles Lemoine, superviseur musical, journaliste et photographe. Salut Charles.
Salut Thomas.
Et moi-même, Thomas Révoy, réalisateur, journaliste et photographe. Comme vous le savez peut-être déjà, nous sommes tous les deux cinéphiles et nous croyons autant dans le support physique que dans le dématérialisé. Aujourd'hui, encore un épisode un peu spécial, je dis ça à chaque fois en ce moment. On vous gâte, mais on vous présentera ça après l'introduction de l'épisode. En deuxième partie d'émission, vous découvrirez côté musique deux morceaux. Le premier s'appelle Like the Hills de Colter Wall et Boogie Woogie Tennessee de Joshua Headley. Popcorn et Banjo, épisode 15 et donc épisode 3 de la deuxième saison. C'est sur Aligre FM 93.1 et c'est parti.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Quand la musique s'arrêtera, ramasse ton pistolet.
Tâchez d'éviter ces explosions d'injures et de mots orduriers qui ne peuvent que gâter une affaire.
Je n'ai jamais vu quelqu'un tuer un poisson comme vous l'avez fait.
Alors vous n'avez jamais rien vu.
On est donc aujourd'hui sur un épisode un peu spécial, comme je vous l'ai annoncé en introduction. Voilà, pour fêter la fin d'année, on s'est dit avec Charles, pourquoi pas revenir d'abord sur deux films chacun qu'on a aimés cette année passée. Un film contemporain, et puis plutôt un film, ce qu'on appelle de patrimoine, un classique qu'on aurait tous les deux découvert cette année. Et puis dans un deuxième temps, un peu comme une draft sportive, on va chacun sélectionner cinq films qu'on attend pour l'année à venir. Et puis on va discuter de ce qui nous excite, ou non d'ailleurs, mais bon, on est plutôt dans le positif ici, ce qui nous excite à l'annonce de ces projets-là. Donc voilà comment va se dérouler cet épisode, et c'est parti tout de suite. Charles, est-ce que tu veux nous parler d'abord du film que tu retiens de l'année précédente ?
Oui Thomas, moi cette année, on en a déjà parlé dans un épisode de Popcorn et Banjo. Alors bien sûr, il y a plusieurs films que j'ai aimés, mais celui qui retient mon attention, c'est celui que je trouve en même temps un peu film d'auteur et en même temps un film assez grand public. J'avoue, je n'ai pas regardé s'il a bien marché ou pas cette année, mais en tout cas, moi, c'est un film qui m'a marqué, c'est The Insider, Black Bag en anglais, de Soderbergh, avec Fassbender et Kate Blanchett. Mais en tout cas, oui, moi, alors, je crois que toi, tu as un peu moins aimé, mais de mon côté, c'est un film que j'ai trouvé en même temps très malin, très court, et qui en même temps raconte plein de choses, qui raconte en fait à travers une histoire d'espionnage vraiment comment se comporte un couple et comment avoir confiance en étant en couple avec tous les mensonges qu'il y a autour des films d'espionnage en fait. Donc il y a une espèce de est-ce que mon mari me trompe, mais au niveau international quoi. Il y a un peu de ça, et où ma femme me trompe d'ailleurs aussi. Et donc en fait c'est un peu une espèce de croisement d'entrechats, de savoir si effectivement il se passe des choses ou pas, est-ce que la femme de Fassbender est une taupe, et ça donne au film quelque chose que j'ai trouvé très ludique, qui en même temps c'est un tout petit film, je trouve, parce que vraiment, il paye pas de mine, il n'y a pas non plus de grosses scènes d'action, quoi que ce soit. Et il arrive pourtant à me tenir en haleine. Et j'ai envie de dire, même presque, l'espionnage, le contexte qu'il y a autour, en fait, est juste un prétexte pour finalement parler d'une relation amoureuse qui va mal ou qui, en tout cas, s'effrite un peu. Et moi, j'avais trouvé ça vraiment, vraiment super.
L'espionnage au service de l'adultère, en somme. c'est marrant parce que tu dis un film court, et j'ai regardé, c'est un film d'1h33, et c'est vrai qu'en fait on a plus l'habitude de ces formats là qui sont en fin de compte un peu assez basiques au départ et qui n'ont rien de court, mais on est tellement habitué à des films qui durent 3h, 2h30, 2h40 que c'est rafraîchissant effectivement d'avoir un film qui a une durée plus habituelle quoi, d'avant.
Ouais, qui est tenu. Et en plus, Soderbergh, il a fait un autre film que j'ai trouvé vraiment pas mal, qui s'appelle Présence, qui aussi joue, en fait, là où il joue avec les codes de l'espionnage. Dans Présence, il joue avec les codes, on va dire, des films de fantômes. Et il arrive à renouveler, je trouve, un petit peu le genre par sa mise en scène, par son scénario. Je crois que c'est David Koepp hein, qui a écrit, donc le mec qui a écrit, par exemple, Jurassic Park. Et il y a quelque chose, effectivement, de très tenu, très... très resserré, et ça fait vraiment du bien de voir ça. Ça fait partie de ces moments où, en fait, je retrouve un peu, quand je suis allé en salle le voir, je retrouve vraiment du cinéma dedans, quoi. Je sais pas comment dire, c'est pas un grand film non plus, je suis d'accord pour dire que c'est pas vraiment le chef de l'année, mais par contre, c'est celui qui m'a fait le plus de plaisir en tant que spectateur, j'ai l'impression.
Et ben moi de mon côté c'est un autre film qui partage la moitié de son titre avec le tien puisqu'il s'appelle Black Dog, film chinois, hein, Gusen en chinois, je me suis lancé, c'est Guan Hu le réalisateur, et ben voilà, c'est aussi un film très cinématographique, notamment dans son aspect visuel, hein, c'est un film d'errance avec un cascadeur qui fait de la motocross dans une ville semi-abandonnée et semi-dominée par des chiens sans maître, hein, sauvages. Et puis il va se lier d'amitié à un de ses chiens, le fameux Black Dog. Et il y a plein d'histoires parallèles qui est cette personne, qui sort de prison au début du film, pourquoi est-il allé en prison, etc. Quels sont ses liens dans la ville à d'autres gangsters et tout ça. Mais c'est surtout un grand film d'errance, un grand film d'amitié entre un homme et un chien. C'est visuellement extraordinaire, il y a une atmosphère de dingue. Et ouais, j'ai vraiment passé un moment fabuleux devant ce film et je vous le recommande absolument. Il faut absolument le découvrir.
Ouais, ça fait partie pour moi aussi d'un des meilleurs films de l'année, où vraiment il y a une espèce de parallèle à faire entre, bien sûr, ce chien errant où tout le monde croit qu'il a la rage, et cet homme qui sort de prison et dont personne ne veut, en fait, dans cette ville. Et c'est un très beau film, effectivement très contemplatif. Parfois, je pense qu'il se perd un peu dans sa narration. Parfois, ça n'a plus trop de sens, c'est vraiment plus pour l'esthétique. Mais... ça fait partie des beaux moments de cinéma qu'on a eu cette année, avec en plus des musiques assez dingues. Il utilise Pink Floyd à un moment, donc il y a quelque chose de vraiment très atmosphérique dans ce film qui est vraiment très intéressant.
Ouais, sans être esthétisant. Je trouve que c'est pas chiant et gratuit, c'est pas une esthétique de pub, ça reste du cinoche, quoi. Côté classique, je sais que tu as découvert un film dont tu veux parler, je crois qu'il s'agit du deuxième film de notre cher Tarkovsky.
Oui, exactement, puisque Tarkovsky a fait d'abord L'enfance d'Ivan, puis il a fait en deuxième long métrage André Roublev, que j'ai eu la chance de découvrir au cinéma. Cette année, j'ai vu trois Tarkovsky. Hein. J'ai vu Nostalgia, j'ai vu Le Sacrifice et j'ai vu André Roublev. Et de tous les cinémas, on va dire, donc de patrimoine, c'est-à-dire les films qui ont au moins 10 ans d'existence, on va dire, André Roublev, c'est celui qui m'a le plus scié. Avec un autre film, mais dont on parlera peut-être plus tard dans une autre émission, donc je n'en dis pas plus. Ce film-là, André Roublev, c'est un film qui dure quand même bien 3 heures, hein, ou 2 heures et demie. Enfin, c'est un film qui est très très long. Hein. Et on va pas se mentir, la première heure et demie, je l'ai vu avec un pote, elle était, mais c'était un peu dur. Donc l'histoire de André Roublev, c'est l'histoire d'un moine qui a réellement existé, qui a fait de la peinture, et en fait on va suivre sa vie. Mais Tarkovsky, bien sûr, au travers de cette espèce de biopic, va parler de bien plus que ça. Il va parler, en fait, de l'URSS d'une manière globale, de la Russie, de la politique, de la religion, de qu'est-ce qu'un artiste, de jusqu'où on peut se sacrifier. Enfin, c'est foisonnant, c'est un film très littéraire et très poétique en même temps. Je suis assez émerveillé de voir que vraiment une dictature ait pu produire ça, parce que vraiment, vu ce que ça dit, je trouve ça hyper étonnant. Mais c'est en même temps, du coup, un film, il faut un peu s'accrocher au début, mais si on s'accroche et si au bout d'un moment on est pris par le flot du film, en fait au début on lutte un peu, et en fait quand on décide de ne plus lutter contre le film et qu'on essaie de rentrer dedans, là ça devient vraiment incroyable. Et le film est vraiment coupé en deux parties, on va dire, et la deuxième heure et demie elle est mais d'une intensité, d'une poésie comme j'ai rarement vu en fait au cinéma. Et Tarkovsky, vraiment, je découvre tous ses films au cinéma en ce moment et ça fait partie des auteurs que j'apprécie beaucoup aujourd'hui.
Je ne l'ai pas vu. Je ne dirai rien sur ce film, mais il a extrêmement bonne réputation. Moi, j'ai un peu de mal avec Tarkovsky. En revanche, je suis un dingue absolu de l'enfance d'Ivan, qui a, je le dis toujours, mais le plus beau baiser de cinéma que j'ai vu de ma vie. Donc oui, je le verrai à l'occasion. Il a vraiment une très, très bonne réputation. Eh bien, de mon côté, j'ai vu un film un petit peu tardivement dans ma cinéphilie. Je pense qu'il n'y a pas de loi, pas de règle par rapport à tout ça. Mais c'est vrai que celui-là, on en entend parler très vite hein, quand on s'intéresse au cinéma. Et j'ai attendu d'avoir 33 ans, presque 34, pour le regarder. Il s'agit de Casablanca de Michael Curtis, un film de 1943. Je l'ai vu dans un sublime Blu-ray restauré chez Warner et j'ai pris une énorme claque. Énorme. Et d'ailleurs, peut-être quelque part, le fait que je pense que je peux me qualifier de cinéphile et le fait que je le vois vraiment avec mon regard de cinéphile, je pense presque que ça décuple mon plaisir en fait, parce que tout est parfait. La lumière est extraordinaire, l'écriture est dingue, le jeu d'acteur est fou, il y a une finesse. Alors c'est un énorme film de propagande à beaucoup de niveaux, hein, et ça s'en cache pas, ça chante la Marseillaise. Enfin voilà, tout est construit autour de la propagande militaire, c'est vachement intéressant d'ailleurs. Mais autour de ça, c'est une enveloppe cinématographique qui est... moi ça m'a scié. Vraiment, c'est un film qui a plus de 80 ans et qui met à la ramasse mais tout ce que je vois, quoi. C'est d'une beauté, c'est vraiment d'une perfection, c'est d'une fragilité. Les comédiens, je suis pas un dingue de Bogart, mais là vraiment, il donne une leçon. Bergman, elle est fabuleuse, les seconds rôles. Bon voilà, c'est un film d'ambiance aussi, c'est un film avec un vrai scénario aussi, c'est un peu des deux. Ce n'est pas un hasard qu'il soit si réputé, ce n'est pas juste une médaille qu'on aurait pinché sur le film, c'est une réalité quoi. Je trouve que ça dépasse le cinéma tellement c'est beau et extraordinaire. Je sais que toi tu l'aimes beaucoup aussi.
Ouais, et moi je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça non plus, peut-être il y a peut-être 5 ans, un truc comme ça, mais pas beaucoup plus. Et en vrai, ce que tu as dit est très vrai, c'est-à-dire que je pense que c'est pour moi un des plus grands films du cinéma américain. Bogart, il est super, mais Bogart, je le trouve vraiment super dans plein de films. Moi, je l'ai vu là dans... j'aurais pu parler de ce film-là, Le Violent, que j'ai vu il n'y a pas si longtemps au cinéma, qui est vraiment incroyable. Et en fait, Bogart, il bouffe l'écran. Mais les personnages dans ce film sont tellement forts, tellement puissants. L'histoire d'amour qu'il y a est tellement folle. Que vraiment c'est une vraie leçon de cinéma, comme tu as dit, d'écriture, de poésie, et c'est génial de voir des films comme ça, très grand public entre guillemets et très culte, qui n'ont vraiment pas perdu de leur valeur, de leur intensité malgré le temps.
En vrai, je trouve ça moderne. Je trouve que c'est fou en termes de montage, la rapidité des cuts et tout. C'est de la folie. Et vraiment, j'insiste là-dessus, mais c'est quand même un très gros film de propagande. Et d'arriver à injecter dans un film qu'il faut faire comme ça, dans une certaine urgence de production de guerre, pour dire des messages, etc., qui sont des messages un peu à la Truelle, d'arriver à les rendre fins et d'arriver à injecter une si belle histoire d'amour, si fragile, si sensible, chapeau. Chapeau les Hongrois, hein, chapeau la Hongrie, hein, parce que bon, Hollywood a été créé par les Hongrois et Michael Curtis en faisait partie. Voilà.
Sans un chauvinisme vraiment. C'est là la propagande hongroise se fait maintenant sur cette radio-là.
Elle se fait vraiment simplement et uniquement autour du cinéma, en revanche, je précise.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Charles, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de musique ?
Alors, le premier chanteur que je vais vous présenter s'appelle Colter Wall. C'est un chanteur d'origine canadienne, mais qui a des racines bien américaines dans ses morceaux. Il a sorti son album en novembre, le 14 novembre dernier. Son album qui s'appelle Memories and Empties. Et le morceau que je vais vous faire écouter aujourd'hui s'appelle Like the Hills. Colter Wall, c'est un jeune homme qui a une voix extrêmement grave, qui, moi, me rappelle celle de Johnny Cash. Comme je vous disais, c'est de la country vraiment traditionnelle, avec quand même une pointe de modernité dans les accords et les arrangements quand même à la guitare. On n'est plus dans du Johnny Cash, hein, on n'est plus que dans du picking et des choses comme ça. Il y a quand même quelque chose, mais on reste quand même dans quelque chose d'un peu terreux, d'un peu rugueux. Et on va le ressentir aussi avec comment il a enregistré tout cet album, puisqu'il l'a enregistré, on va dire, dans les conditions live, avec le band qu'il a depuis quelques années maintenant. Et on sent vraiment comme ça une espèce de rugosité avec sa voix, avec sa guitare, qui est, enfin, il y a quelque chose de très sec, de très aride dans sa musique, qui me plaît beaucoup. Mais dans ce morceau, Like the Hills, vous allez voir, justement, c'est plus un côté hillbilly que j'apprécie beaucoup. C'est beaucoup plus joyeux que d'habitude, lui qui est normalement si rugueux. Le deuxième artiste que je vais vous présenter, lui, c'est vraiment tout le contraire de Colter Wall. Il s'agit de Joshua Headley et de son morceau Boogie Woogie Tennessee. Alors Joshua Headley, lui, pour le coup, il s'est fait repérer par le label de Jack White, Third Man Records. Et ensuite, là, il en est à son, maintenant, son troisième album qui s'appelle Top Hat, qui est sorti là en octobre. Comme je vous l'ai dit, là, c'est un peu le jour et la nuit. Hein, Colter Wall, très deep, très grave. Joshua Headley, lui, il est vraiment dans ce qu'on appelle le western swing. Alors vous savez à quel point j'aime à chaque fois vous présenter un style de country différent. Le western swing, j'allais dire que c'est un peu un mélange de polka, mais il y a un peu de ça, mais pas exactement. Je dirais que c'est plutôt un mélange entre la country et le jazz. C'est la Nouvelle-Orléans qui rencontre le Texas. Donc vous allez entendre tout de suite, de toute façon, qu'il y a quelque chose vraiment qui, littéralement, du coup, swing dans ses morceaux, dans son album. Et c'est très dansant, c'est très joyeux, c'est très lumineux. C'est vraiment le western swing, ça vous donne vraiment envie d'aller dans des espèces de ballroom des années 50 et 60 et de danser joyeusement avec vos Santiago. Je vous laisse donc avec ces deux morceaux et ces deux artistes qui sont récents. Ça fait un peu du bien aussi d'écouter des nouveautés. Bonne écoute. If you jingle in the horses, then I feed another bale. Winter spending all her forces, blowing snow and cold as hell. But we'll make it through the fight, till the days gain on the nights. Like the hills will still be right here. Though the weather's bound to change, like the hill will remain. Keep on giving all your love, I'll give you my last name. Well, this country's awful tough, but your loving is enough. Like the hills will still be right here. Let birds are nesting in the barbed wire. Hot and windy, just like living inside of an old hair dryer. But we'll make it through these days, as old timers say. Like the hills will still be right here. Though the weather's bound to change, like the hill will remain. Keep on giving all your love, I'll give you my last name. Well, this country's awful tough, but your loving is enough. Like the hills will still be right here. Change like the hill will remain. Keep on giving all your love, I'll give you my last name. Well, this country's awful tough, but your love is enough. Like the hills will still be right here. Right.
It's just down the road of peace, not so hard to find. In the hospitality, is that good old southern kind? Whoever planned the town through the Pamela way, moonshine all night and moonshine all day.
Écoutez Allegre FM 93.1.
Et vous êtes sur Popcorn et Banjo, la seule émission de cinéma qui diffuse exclusivement de la musique country. Et tout de suite, la draft des films qu'on attend pour l'année à venir. Charles, quel est ton premier choix ?
Eh bien écoute, le premier choix que je... Alors moi j'ai pris les films vraiment qui vont arriver prochainement. J'ai pas voulu faire les trucs en juin-juillet, j'ai préféré...
Ce qui est pas plus mal parce que moi j'ai fait juin-juillet.
J'ai préféré rester sur des films en fait qu'on pourra chroniquer peut-être en janvier, février, mars. Et donc dans ce cas ça pourra rester peut-être dans l'oreille de certains auditeurs. Ils pourront peut-être le regarder comme ça. Quand ils nous écouteront, ils pourront un peu mieux comprendre les tenants aboutissants de ce qu'on raconte. En tout cas, le premier film dont je vais parler s'appelle « Les échos du passé » qui sortira le 7 janvier, donc dans pas si longtemps. C'est le premier long-métrage de Masha Chlilinski, j'espère que je le prononce bien, qui a été quand même prix du jury ex-écho avec ce film de merde qui est Sirat. Je préfère le redire que de dire exactement ce que je pense. Mais pourquoi ça m'intrigue ? C'est vraiment le pitch de film en lui-même m'intrigue follement. En fait, ça va raconter l'histoire de quatre jeunes filles dans la même ferme, mais à des époques différentes. Donc en fait, je crois que ça se passe en 1900, 1940, 1970 et 2020. Et en fait, à travers ce corps de ferme, on va retrouver ces quatre femmes qui vont vivre chacune leur expérience, mais qui sont en même temps toutes reliées les unes aux autres. Par le temps, par l'espace, je ne sais pas trop. Et vraiment, pourquoi ça m'intéresse ? Tout simplement parce que ce sont vraiment des thématiques, en tout cas de ce que je crois du film, de ce qu'il va présenter. Ce sont des thématiques qui moi, me touchent beaucoup, cette espèce de temps qui s'étire et de choses qui restent avec les échos du passé qui font écho dans le futur, en fait, ou dans notre présent à nous. Et en général, c'est des choses qui me touchent beaucoup. Et j'attends de voir, j'avoue, la différence entre, par exemple, Sirat, qui vraiment m'a pas beaucoup plu, et ce film-là, qui a eu quand même le même prix. Donc, toujours bien de voir un peu ce qu'a pensé les jurys de ce film-là, quoi.
Bon, moi, je vais pas te mentir, mon choix, il est un petit peu moins autorisant pour un premier choix. J'ai évidemment choisi le très grand film de cette fin d'année 2025 qui est prévu pour le 31 décembre 2025.
C'est déjà de la triche. Hein.
Et il s'agit de Anaconda. De Tom Gormican. Alors, Anaconda, c'est d'abord un très, très grand film d'horreur. Non, trêve de plaisanterie, moi j'ai beaucoup aimé, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, l'original, et en vrai, je trouve qu'il y a des trucs de dingue, ultra malsains, ultra stylés, et j'ai bien kiffé. Et alors là, vraiment, c'est un Anaconda avec Jack Black, et en gros, c'est le concept du film, c'est des potes qui sont un peu à la ramasse et qui décident d'aller remaker leur film préféré d'enfance. Et donc, ils décident de refaire un Anaconda et qui partent dans la jungle et tout part en live. C'est une comédie horrifique action, mais enfin plutôt comique, hein, évidemment. Et voilà, je l'attends de pied ferme.
Ouais, mais j'avoue, j'ai vu la bonne annonce, moi, ça ne m'a pas trop chauffé. Mais bon, peut-être que ça sera mieux en vrai, mais c'est vrai que c'est bizarre, c'est parce que c'est pas un remake, c'est pas un reboot, c'est vraiment juste, ils reprennent le titre et en fait, ils se foutent de la gueule du film, quoi, j'ai l'impression. Je sais pas trop à quoi m'en tenir, en fait, parce qu'il y a Paul Rudd aussi, enfin, il y a beaucoup d'acteurs de comédie, quoi. Donc je sais pas trop quoi penser de cette nouvelle itération de Anaconda.
Mais j'aime bien l'idée, en tout cas l'idée est bonne. Et c'est par un des scénaristes du flic des Beverly Hills, Axel F, tu sais, qui était donc le 4 ou le 5 le 5
non, il y en a le eu 3. Le quatrième volet.
Ouais, le quatrième qui vient de sortir. Je l'ai pas vu, tu l'as vu ou pas?
Non, franchement, ça me fait pas trop envie.
Ouais, quand même, par curiosité, pourquoi pas à l'occasion.
Mais ça sent pas bon, hein, je trouve, hein, quand même. Dans ce cas-là, si c'est le mec qui a écrit ça. Enfin bon, après, j'avoue, j'ai pas vu le film, je saurais pas dire, mais. Ok.
Vas-y, draft-moi ton deuxième choix.
Écoute, mon deuxième choix, eh bien là, il va être. Ça va dans le même sens que toi, là. J'ai pris un film un peu plus cool. J'ai pris Send Help, qui va sortir le 28 janvier, qui est un film de Sam Raimi, qui revient à la réalisation après. Il a fait Doctor Strange, qui était vraiment le deuxième, qui était vraiment pas terrible. Et avant ça, il a fait Oz, je crois. C'est vraiment le film qu'il a fait avant. Donc, pour remonter à un film que j'ai bien aimé, lui, il faut aller en 2009, 2010, pour Drag Me to Hell, qui est vraiment un film d'horreur qui est très, très sympathique, mais qui est pas non plus bon. C'est pas la panacée non plus.
Mais surtout, il revient à la réale de films d'horreur.
Bah depuis, Doctor Strange avait ce truc-là un peu horrifique de temps en temps, mais oui, Drag Me to Hell, je sais plus le nom en français, mais
Jusqu'en Enfer,
et qui était vraiment effectivement un vrai film d'horreur là pour le coup. Mais là, Send Help, c'est pas vraiment un film d'horreur, c'est une. J'ai l'impression dans la bonne annonce, ça fait paraître un peu entre comédie, un peu d'horreur, un peu d'action, c'est pas trop, et donc c'est l'histoire de. D'une femme qui se fait vraiment mansplainer au travail par son boss qui a l'air horrible. Et finalement, il y a un crash d'avion, ils se retrouvent tous les deux sur une île. Et sauf qu'en fait, le mec, il dit t'es la boniche, donc tu vas faire des trucs. Et la meuf, elle dit bah non, en fait, maintenant c'est moi qui commande. Et donc, j'ai l'impression que c'est une espèce de lutte des classes féministe, lutte des classes comme ça, comment guerre des sexes, version Sam Raimi. Avec certainement un peu de violence, un peu de trucs barjo. Donc j'ai assez hâte de voir ça parce que je pense que ça sera pas du même niveau qu'Evil Dead et des choses comme ça, mais en tout cas Sam Raimi a quand même un certain don pour mélanger comédie et horreur, et rien que pour ça j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
Il sort le 28 janvier, c'est ça?
Exactement.
Et alors le 28 janvier, il y a un autre film important qui sort. C'est La Gratia de Sorrentino que j'ai vu. Là, j'ai eu la chance de le voir en presse il y a quelques temps. Et honnêtement, je ne suis pas du tout un dingue de Sorrentino, mais là, j'ai pris une énorme claque. C'est un très, très, très joli film sur le deuil. Un très joli film sur qu'est-ce que c'est que de vieillir seul, en fait. Et vraiment, je vous le recommande. On en reparlera sans doute à l'occasion. Mais voilà, je note que c'est la même semaine. Et puis le 28 janvier, il y a quelque chose d'autre, hein, d'important, puisque ça sera aussi mes 34 ans. Donc voilà, je l'annonce aussi ici sur le podcast. En tout cas, non, Sam Raimi, je suis très très curieux et j'avoue, je l'avais aussi noté, tu vois, mais je l'ai pas drafté. Mais je suis très curieux de ce que ça va donner, ouais, carrément. J'y crois beaucoup, moi. J'y crois vraiment beaucoup.
Bah en tout cas, il y a Rachel McAdams qui joue la protagoniste principale, donc Moi, j'aime beaucoup cette actrice, donc je pense vraiment que ça va être vraiment au moins chouette à regarder. Enfin, j'espère que ce sera au moins chouette à regarder. C'est tout ce que je demande d'un film comme ça, en tout cas, par exemple.
Aligre FM 93.1.
Et je le rappelle parce que je le rappelle à chaque fois qu'on parle de Sam Raimi, mais Sam Raimi est aussi le producteur et le coproducteur en fait de Xenia la guerrière.
Et voilà. De Hercule aussi,
j'aime bien dire ça. Ah non, c'est vrai ?
Je crois bien, ouais. J'ai revu ça récemment parce que c'est un gros prod en fait, Sam Raimi. Hein.
Mais énorme. Et en fait, Lucy Lawless, quand même, a bercé une partie de mon enfance. Mm. Donc là, j'imagine peut-être un Lucy Lawless sur une plage en train de fracasser son boss, tu vois.
Je suis pas sûr de ça. Mais
écoute, moi, je vais drafter un film dont je ne sais absolument rien, à part sa date de sortie qui est le 10 juin 2026. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il s'agit d'un nouveau Scary Movie.
Ah, j'en ai entendu parler.
Scary Movie revient. Est-ce que c'est vrai ? En tout cas, il est annoncé, il est daté. Scary Movie, je ne sais pas combien il y en a eu. Je ne sais pas si je les ai tous vus.
Il y en a eu 5, je
crois. Ouais, il y en a au moins eu 5. Mais j'adore le 3. Le 2 est un chef-d'œuvre absolu. Et j'aime bien le 1. Mais non, j'ai un rapport à la franchise. Franchement, je l'ai découvert avec le 2. Et c'est un film qui m'a accompagné dans mon je sais pas, mon adolescence, quand t'as, je sais pas, 12-13 ans, quoi, que je trouvais dinguissime. Donc voilà, ouais, en découvrir un, je suis pas sûr que j'en ai découvert un en salle, pourquoi pas, je suis assez preneur.
Eh ben écoute, pareil, c'est vrai que j'ai... Bon après, effectivement, s'il sort tard dans l'année, j'ai pas pu le voir dans les prochaines sorties, mais pareil, moi, je crois que j'aime à peu près tous les Scary Movie parce que d'abord, ils ont été réalisés par les frères Wayans, mais ensuite, ça a été les mecs des As, là, c'est un des... Je crois que c'est David Zucker qui a réalisé les autres après, certains. Donc du coup, moi, c'est vraiment exactement mon type d'humour.
Ceux qui ont fait « Y a-t-il un pilote dans l'avion ?»« Y a-t-il un pilote pour sauver l'humanité ?» Enfin, ce genre de truc. C'est pas ça le titre, mais...
Non, y a-t-il un flic pour sauver la reine ? Des choses comme ça, effectivement.
Il est bien celui-là.
Ouais, bah de toute façon, moi, ils sont tous bien à Top Secret. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu de comédie avec Val Kilmer, enfin.
Je l'ai pas vu, mais j'ai une amie qui écoute constamment le podcast qui m'a dit qu'il fallait absolument que je le regarde. Donc voilà, petite dédicace à toi, Alizée.
Eh bien, elle a parfaitement raison, parce que c'est... Bah, je l'ai si tu veux. Voilà, on pourra le regarder après.
Ah, mais pourquoi pas.
Mais en tout cas, j'avoue, j'ai assez hâte de voir. En plus, vu que c'est les Wayans qui reviennent aux commandes, je suis assez intrigué par ça, en tout cas.
On va drafter ton troisième titre tout de suite, Charles, c'est à toi.
Oui, alors, mon troisième film va être un documentaire qui sort aussi le 28 janvier, qui s'appelle, du coup, Howard Zinn, une histoire populaire américaine 2. Pourquoi ça m'intéresse ? Eh bien, tout simplement parce que c'est adapté d'un livre, en fait, qui s'appelle, du coup, écrit par Howard Zinn, qui va parler de l'histoire des États-Unis, mais à travers le prisme des minorités et des opprimés. C'est-à-dire que Howard Zinn va plutôt parler du prolétariat, va parler des Noirs américains, va parler des Amérindiens, pour raconter comment l'histoire, pour raconter comment ce pays s'est construit. Donc, on va dire, il ne réécrit pas l'histoire américaine, mais il va, dans son livre, il explique en fait comment tout simplement l'Amérique a à peu près tout défracté et comment ils se sont développés à travers le sang et l'esclavage, quoi. En gros, c'est un peu ça. Et donc, il y a eu un premier documentaire qui est sorti en 2015 sur le travail d'Howard Zinn. C'est réalisé par Olivier Azam et Daniel Mermet. Pardon. Et là, le 2, au vu de la bande-annonce, j'ai l'impression qu'il va plus parler, en fait, vraiment de ce qui est à l'intérieur du livre, plutôt que de parler de comment Howard Zinn a créé ce bouquin. Et ce qui va être intéressant, c'est que là, on est en plein air Trump, où il a envie d'un peu il demande en tout cas à certaines universités de réécrire un peu l'histoire américaine pour l'enjoliver un peu ou la rendre plus jolie ou des choses comme ça. En tout cas, il y a eu quand même il a fait des sorties de route là-dessus. Et j'ai l'impression que le documentaire va justement parler de cette ère Trump et en même temps de l'héritage de ce livre et en même temps de parler de vraiment l'histoire américaine, quoi. Donc c'est un documentaire qui m'intéresse vivement.
T'as lu le bouquin ou pas ?
Je l'ai feuilleté, je ne l'ai pas lu entièrement parce que c'est un gros pavé, mais j'ai lu pas mal... En fait, c'est toujours pareil, tu sais, c'est des trucs que tu lis un peu par chapitre. Et donc, en fait, chaque chapitre...
Comme quand tu lis un livre, quoi. Non,
c'est vrai, mais je veux dire... Non, mais Tu sais, il y a ce truc.
Je sais pas comment tu lis tes livres, quoi. Mais je comprends, tu peux sectionner, quoi.
Ouais, c'est ça, parce que en fait, c'est tellement fat. Moi, par exemple, j'ai pris les trucs qui m'intéressaient le plus, c'est-à-dire en fait toute la partie de la ségrégation, les années 50, 60, enfin, les années 1860, pour être précis. Donc, avec aussi la fin de l'esclavage, comment ça se passait avec les Indiens d'Amérique, etc. Donc, c'est plutôt ces phases-là qui m'ont intéressé dans son livre.
Très bien. Et t'avais vu le premier doc ou pas ?
Pas du tout, je savais même pas qu'il existait, pour être honnête. Mais...
Bon, bah donc il y a tout un lore à découvrir.
Exactement.
Alors, en troisième choix...
Quatrième choix.
En quatrième ?
Bah toi, t'as dit...
Ah ouais ? Anaconda.
Le Sorrentino.
Non, le Sorrentino, c'est j'ai rebondi sur la date.
C'est un petit gâteau, c'est une petite friandise.
C'est une petite friandise.
Ah là là, okay.
D'ailleurs, il y aura donc 4 événements le 28 janvier, puisqu'il y a donc ton documentaire aussi. Non, en troisième choix, un film d'animation. C'est rare, mais c'est vraiment la saga d'animation qui m'accompagne depuis toujours, même si je ne pense pas que j'ai vu le numéro 4, et c'est Toy Story 5 qui sort. T'aimes pas du tout ? Le 17 juin.
Aucun jugement.
T'aimes pas Toy Story ?
Si, si, j'adore Toy Story, mais après le 3, c'est fini, quoi.
Ah, mais j'ai pas vu le 4, donc il est catastrophique ?
Non,
ah,
okay. Mais en vrai, je suis pas fan, pas fan du 4.
Les trois premiers sont extraordinaires.
Bah, le troisième, il m'a fait chialer.
Moi, il m'a fait pleurer. Ouais. J'ai pleuré au cinéma. Ouais. Voilà.
Ouais, il est très fort.
Bon, bah, donc voilà, donc on y croit. Bon, bah, ok. Bah, dans ces cas-là, je te laisse pas la parole, j'enchaîne avec mon quatrième choix, puis tu me donneras le tien ensuite.
Ah, t'as que ça à dire sur Toy Story ?
C'est à peu près tout. Non, okay. Mais parce que le problème, c'est que j'ai choisi des films dont je ne connais pas vraiment, je pense qu'ils dévoilent pas du tout les pitchs.
Bah, si, là, dans le 5, c'est en gros, le grand méchant, ça va être une tablette tactile.
Ah oui, j'avais lu ça, effectivement, c'est vrai. J'avais lu que les jouets se connectaient à l'IA, etc., enfin, en tout cas, au monde tactile. Oui, j'avais oublié ce détail. Ouais, ça m'excite un peu moins là, tout de suite. Mais bon, ce qu'on aime chez Toy Story, c'est vraiment que ça nous renvoie à tous nos jouets d'enfance. C'est Action Man, les petits soldats en plastique. Enfin, tu vois, c'est ça qui est marrant.
C'était il y a 20 ans, 25 ans.
Bon, bah, j'irai quand même le voir. Et je regarderai le 4 quand même d'ici là. Non, il y a un événement aussi hein, pour les gens qui aiment la série B, pour les gens qui aiment Rémi Harlin. Il y a un gros événement qui va sortir le 26 août 2026. Alors, c'est pas un réalisateur que j'aime énormément, c'est Jaume Colessera, qui est un peu cet homme qui fait un peu tout. Tu sais, il a fait la meuf toute seule sur un rocher avec un requin qui fait la taille d'un dinosaure là, qui la traque. Il a fait La Maison de Cire. La Maison de Cire, il a fait aussi.
Ah oui, je vois.
Il a commencé en fait avec La Maison de Cire. Et puis après, il a fait pas mal de trucs d'action dans les avions.
La Maison de Cire avec Paris Hilton.
Oui. Ouais, okay. Qui paraît-il était pas mal quand même. Enfin, qu'il y avait des scènes assez hardcore. Bref, il sort un remake de Cliffhanger.
Mais non.
Il y a un remake de Cliffhanger qui sort.
Qui joue Stallone ?
Eh bien, je ne sais pas. Je pense que tout ça, on peut le trouver. Hein. Mais j'ai fait un peu. Voilà, moi, je vois remake de Cliffhanger qui est quand même. En vrai, Cliffhanger, c'est pas terrible. On va pas se mentir. C'est un peu chiant. Mais les 15 premières minutes sont fabuleuses. Et puis. C'est un film qu'on aime plus dans l'idée de l'aimer que quand on l'a vu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Bah, Cliffhanger, c'est juste un nanar un peu débile, quoi. Mais c'est pour voir Stallone en Marcel.
Ouais, mais il est en Marcel dans tous ses films de ces années-là, tu vois. C'est pas une surprise.
Oui, mais là, il est en Marcel dans la neige.
C'est vrai, il est en haut d'un sommet d'une montagne. Non, mais en tout cas, remake de Cliffhanger, moi, ça me tente beaucoup. J'ai envie de voir aussi... Qu'est-ce que ça peut donner ? Cliffhanger, c'est l'histoire d'un alpiniste hein, qui se retrouve à récupérer, c'est une mallette ou un truc comme ça, de fric ?
Des caisses de drogue, non ?
Ouais, ou de la drogue. Enfin, en tout cas, il se retrouve devant un crash d'hélico, je crois. Alors, je ne l'ai pas vu depuis longtemps, donc là, les fans, ils vont peut-être exploser à mon pitch, mais c'est vraiment Stallone qui joue un alpiniste et qui se retrouve au mauvais endroit dans la montagne, au milieu de drug dealers et qui décide de leur régler leur compte.
Exceptionnel.
Et c'est dirigé, enfin réalisé par Rémi Harlin et les gens qui nous écoutent savent qu'on a une passion discrète et latente pour ce cher Rémi. Donc voilà, accrochez-vous le 26 août prochain, on sera dans la montagne. Vas-y, tu peux y aller avec ton quatrième choix.
Moi, mon quatrième choix va aller assez vite, donc je pense que je vais pouvoir rebondir sur le cinquième. Le prochain film qui m'intéresse, c'est Die My Love, qui va sortir le 4 mars, de Lynn Ramsey. Lynn Ramsey, celle qui avait fait Beautiful Day avec Joaquin Phoenix, que j'avais vraiment détesté, mais vraiment que j'avais trouvé mais catastrophique. C'était vraiment un film de demeurer. Voilà, je dis comme je pense. C'était vraiment, mais horrible comme film. Et en plus, tout le monde a dit que c'était genre le nouveau Taxi Driver, je sais pas quoi tu fais. Enfin bon, bref. Film vraiment catastrophique. Mais je suis Clément et je laisse sa chance. Je laisse la chance à ce film d'exister. Et pourquoi ça me fait envie, celui-là? Tout simplement parce que le duo de comédiens me fait très, très, très saliver. Puisque ça va être l'histoire donc, d'un couple qui se déchire, si j'ai bien compris, parce que la femme du couple devient folle, si j'ai bien compris le pitch. Et donc, ça sera avec Jennifer Lawrence, qui est une actrice que j'aime beaucoup. Et ça va être avec ce bon vieux Batman de...
Michael Keaton?
Non.
J'aurais adoré.
Voilà, ce bon vieux Batman de Robert Pattinson, donc, que j'aime aussi beaucoup en tant qu'acteur. Donc c'est vraiment plus par le combo des deux qui me fait assez rêver, plus que par autre chose, parce que là j'ai l'impression que le pitch du film est un peu dur sur cette histoire de femme qui devient un peu folle et son mariage vole en éclats. J'attends vraiment de voir, parce que vraiment Beautiful Day, c'était vraiment tellement débile et tellement peu subtil que j'ai quand même un peu des relents de ça. Mais c'est quand même c'est quand même fait partie des films qui m'intriguent, on va dire, avec le cinquième film que je vais tout de suite vous dire, qui est Christie, qui sort le 4 mars, de David Michaud. Et là ça m'intéresse parce que Christie, c'est un biopic en fait sur une boxeuse, et j'avoue, ça me fait complètement vrillé, parce que il faut savoir, alors je pense que Thomas, on a le même problème, on va dire, dans la vie, c'est que on adore se battre, déjà, premièrement. C'est vraiment notre grand truc à nous, on adore se battre, et surtout on adore plus sérieusement les films de boxe, alors que ça soit Rocky, mais même ce bon vieux Walter Hill qui a fait Un seul de nous deviendra invincible. Voilà. Non mais bref, en tout cas, c'est un film qui me fait envie, juste simplement parce que j'adore les films de boxe. Alors c'est avec une actrice qui fait un peu polémique en ce moment, qui est Sydney Sweeney, hein, qui en ce moment a quelques problèmes de suprématisme blanc, je crois, j'ai l'impression, de ce que je comprends. Mais en tout cas, j'ai assez hâte de voir ce que ça donne. Je trouve que les films de boxe sont toujours, c'est un sous-genre des films de sport, et il y a toujours un truc, on va dire, toujours il y a plusieurs niveaux de lecture.
Plusieurs degrés.
Exact. Il y a plusieurs niveaux de lecture dans le film, et c'est dans ce genre de film, et c'est ça qui me chauffe un peu.
Il y a un très très bon film de boxe qui s'appelle Nous avons gagné ce soir, de Robert Wise, qui dure 1h13, je sais pas si tu l'as vu, qui est un film de 49 qui est dinguissime, mais vraiment très très beau, avec Robert Ryan.
Je ne l'ai pas vu, mais je veux absolument le voir, effectivement. Je me demande si c'est pas celui-là qui a inspiré Rocky, non, un peu, en partie.
C'est possible, ça j'avoue, je sais pas, mais c'est possible.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
T'as drafté tes 5 titres ?
Ça y est, c'est fait, il te reste plus qu'un pour toi ?
Moi, le cinquième, il est aussi un peu pour toi, mais quand même beaucoup pour moi, parce que c'est mon Looney Tunes préféré. Sache que le 26 août, encore une fois, donc en même temps que Cliffhanger, il y a moyen que ce soit une semaine un peu chargée pour moi, le 26 août 2026 sort en salle, au cinéma, Coyote versus Acné. Et donc...
Acné, pas Acné.
Merci. Je recommence. Coyote versus Acné. Et donc, mais tu pourras complètement garder les deux prises, j'assume mon erreur. Non, ça a l'air, c'est Coyote le film, hein. Coyote, c'est celui qui essaye de choper, je te le fais un peu mieux là, tout le, d'ailleurs c'est que je préfère à Coyote, hein. je parle du Coyote, mais en fait c'est plutôt Bip Bip que je préfère, mais j'ai de l'amour pour ces deux personnages. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils en feront, quoi. Ça va être un vrai retour aussi dans mon enfance. J'adore ce duo. Je pense pas qu'il y aura. Tu penses qu'il y aura, s'il y a Coyote, il y a forcément Bip Bip ou pas?
Mais tu sais de quoi ça parle, le film?
Mais
ou pas
du tout. C'est juste que ça se passe dans les entrepôts de Acme.
Mais tu connais l'histoire aussi du film qui est autour, du coup?
Non.
Ah là là, mais mec.
J'ai drafté un truc intéressant.
T'as raté un an de drama. Un an de drama là.
Je sais que c'est John Cena qui fait la voix.
Bah en fait, non, en fait, John Cena, je crois qu'il joue l'avocat de Coyote, parce qu'en fait, c'est Coyote qui en a marre de se faire arnaquer par Acme, parce qu'aucune machine ne fonctionne, et donc il va porter plainte, et il y a un procès il va intenter un procès contre Acme, en fait.
Mais c'est extraordinaire, mais comme pitch.
Et bah, c'est Barjo, et surtout, c'est, si j'ai pas de pédis, c'est la Fox qui devait produire ça. Non, pas la Fox. C'est Warner Bros., pardon, qui devait produire ça. Sauf que le film a été fait, le film a été monté, et Warner Bros. A dit, en fait, finalement, on le sortira jamais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en ne sortant pas le film, ça leur permet de gagner de la thune avec les impôts. Enfin, il y a tout un bordel de rétrocession, de thunes, de machin. Et en fait, du coup, ça a gueulé partout. Il y a des gens qui ont voulu racheter le film. Il y a des gens qui ont voulu... Voilà. Enfin bon, il y a eu tout un... Mais vraiment, ça a duré 6 mois de polémique où, en gros, Warner, tu sais, il avait déjà annulé... Oui, Warner a annulé déjà le Bad Girl... Un film sur Batgirl.
Oui, jamais... je me souviens, absolument.
Avec Michael Keaton, et en fait, le film n'est jamais sorti. Ils ont annulé ça. Je me demande si c'est Warner aussi qui, quand même, à cause de tout leur délire de streaming, ils ont perdu Christopher Nolan. Christopher Nolan, il devait faire le...
L'Odyssée.
Non, mais je crois qu'il devait faire même avant le film d'avant, je ne sais plus. J'ai peur de dire des bêtises, mais en gros... Warner a dit ton prochain film sera seulement sur HBO Max ou en streaming. Tu doutes bien que Christopher Nolan a dit bah non, donc je me casse. Donc en fait, il y a eu vraiment comme ça 2-3 ans de grand bordel, de chaos technique total pour Warner. Et ce film là, c'est un peu c'est fou qui sorte en fait. C'est le film n'aurait jamais dû sortir et normalement il aurait dû être détruit quoi.
Et tu penses que toi ça t'intéresse ou pas?
Le film ?
Ouais.
Ah bah je suis trop chaud moi, mais comme il y a... Normalement là, il y a les Gremlins 3 aussi qui est en production.
Mais ça c'est un peu des mythes, c'est un peu comme l'Arme Fatale 5,
non ? Non, ça y est, non, ça y est. Ah non, c'est en cours là, ça y est, officiellement c'est en cours. Et du coup, c'est tous ces trucs de cartoon un peu what the fuck de Warner que j'attends. Et franchement, moi, quand j'ai appris que Coyote versus Acme ne sortira jamais, j'étais hyper triste. Parce que vraiment, c'est en tout cas, le pitch... me chauffe, mais tellement.
Ouais, c'est une super idée.
Et donc là, je sais pas du coup, à la fin, pourquoi finalement il sort ou pas. Est-ce que c'est Warner qui a rétro-pédalé, qui finalement ressort et tout. Mais en tout cas, j'ai hyper hâte, quoi.
Est-ce que tu sais s'il y aura Bip-Bip ou pas?
je sais pas, sûrement. Sûrement qu'il doit être dans les témoins.
Bon, en tout cas, 2026, ça va être une grande année de cinéma. Il y a plein d'autres films qui sont annoncés. Il y a du Fatih Akin, il y a le Avatar 3, le studio photo de Nankin qui a l'air bien. Le match du Kremlin aussi, adapté du bouquin par Assayas. Et Assayas, en vrai, quand il fait du biopic, il est intéressant. Moi, j'avais vraiment beaucoup aimé Carlos.
Ouais, bah en tout cas, celui-là, je l'avais noté aussi dans un coin et finalement, je l'ai pas gardé.
Il y a un remake du Baiser de la femme araignée.
Ça m'intéresse, moi, ça, j'avoue.
Ça t'intéresse pas?
Bah, moi, je préfère l'original.
Mais tu l'as vu, le Babemco ou pas?
L'original, quoi.
Ouais.
Oui, je savais pas le nom du réel, mais oui.
Et ben moi je ne l'ai pas vu, mais j'ai très envie de le voir. Et c'est une comédie musicale.
Et ben on le verra juste après si tu veux, je l'ai aussi.
Non, on regarde Top Secret après, on regarde, hein. Ou après Top Secret. Le Diable s'habille en Prada 2, je l'annonce quand même. Il y a un film qui s'appelle Les goûteuses d'Hitler aussi, qui a l'air intéressant sur les femmes qui étaient embauchées pour goûter tout ce qu'on servait à Hitler. Et puis l'Odyssée quand même, en vrai je suis assez curieux.
Moi, pas du tout, j'avoue. Mais je suis pas très Nolan, donc...
Ouais, moi non plus, mais quand même... En fait, j'ai adoré le Prestige, mais ça remonte. Mais l'Odyssée, quand même, je sais pas, j'ai envie d'y croire.
Et ben, tu peux toujours y croire, hein, mec. Hein, c'est...
Tu sais qu'il avait été attaché à 3, le 3 de Wolfgang Petersen.
Mais non.
Je crois, ouais, je crois qu'il a été attaché à 3. Je sais pas pourquoi il l'a pas fait, pourquoi il a refusé, mais il me semble que Nolan a été attaché à ce film. Bref, donc résultat, j'imagine ce qu'aurait fait Petersen avec l'Odyssée. Voilà, bon, je sais pas pourquoi je dis tout ça, mais peu importe. voilà, Popcorn et Banjo, le 15e épisode du podcast et le 3e épisode de la 2e saison, c'est terminé. C'était sur Aligre FM 93.1 et c'était la seule émission de cinéma qui diffuse exclusivement de la musique country. Et on se retrouve dans 3 semaines. Salut à tous, ciao ciao.
Salut.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.